affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Alors que nous enregistrons notre émission, la France reste peu ou prou empêtrée dans un débat virulent sur la réforme de notre système de retraite. Ce débat, doublé d'un conflit social sans précédent, n'est que l'une des conséquences d'une bonne nouvelle. Depuis 1900, l'espérance de vie a augmenté d'environ 30 ans. Nous vivons de plus en plus longtemps, si bien que le nombre de Français de plus de 60 ans s'élève déjà à presque 18 millions, et parmi eux 6,3 millions de personnes de plus de 75 ans. Cet allongement de la vie constitue une sorte de fait social total dont les implications se déploient au carrefour de l'intime et du collectif. L'allongement de la durée de la vie pose des questions politiques, économiques, sociales, philosophiques, éthiques, métaphysiques peut-être même. Elle modifie notre rapport à la vie, aux autres, à nous-mêmes et au monde, suscitant des débats, des espoirs, des craintes, souvent également démesurées. Et pourtant, curieusement, toutes ces questions se déploient souvent sans que l'on ait pris même la peine de définir ce qu'est le vieillissement. Nous parlons ainsi des conséquences sans avoir cerné le sujet, et c'est pourquoi souvent nous nous égarons. Notre émission de ce jour vise à dissiper ces brumes. Nous allons en effet la consacrer au vieillissement, avec l'aide d'un spécialiste de ces questions. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio le professeur Yves Agide. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes bien évidemment membre de l'Académie des sciences, professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire à l'Université Paris-Sorbonne, et que vous êtes donc un spécialiste de la recherche sur les maladies neurodégénératives et donc partant de l'allongement de la vie, de ses conséquences heureuses et malheureuses. Enfin, vous venez de publier un ouvrage dont le titre est déjà tout un programme, « Je m'amuse à vieillir, le cerveau maître du temps ». Alors, première question, le titre semble l'induire, cet allongement de la durée de la vie, vous l'envisagez d'abord comme une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?
Bah oui, c'est une bonne nouvelle, l'allongement de la vie. L'espérance de vie a augmenté de manière considérable. Les femmes disparaissent en moyenne à 85 ans, les hommes à 80 ans. Alors, il y a une confusion de ne pas faire, n'est-ce pas ? L'espérance de vie, ce n'est pas la longévité. La longévité, c'est l'espérance de vie maximale qui est obtenue dans les diverses espèces animales. Par exemple, une bactérie vit quelques minutes, un chien vit un peu moins de 15 ans, etc. etc. L'homme, il ne peut pas dépasser 120 ans. Il y a bien sûr l'histoire de Madame Calment, qui posait d'ailleurs des problèmes. Elle est morte à 122 ans et quelques. Mais en réalité, en dehors de cette personne, personne n'a dépassé 120 ans. Même les gens qui avaient les meilleures qualités pour le faire, par exemple les champions olympiques, qui en moyenne vivent plutôt plus vieux que 6 ans de plus que la moyenne des Français. Donc ça, c'est la longévité. L'espérance de vie, elle a augmenté. Bon, très bien, on est très contents, mais pourquoi ? Elle a augmenté parce qu'on traite bien les maladies des petits-enfants, qui meurent beaucoup moins, meurent très très rarement, heureusement, et surtout les maladies des personnes très âgées, l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle, le diabète, etc., etc. Ce qui fait qu'on est très heureux de pouvoir y vivre longtemps, mais... Effectivement, vous imaginez comme on guérit beaucoup, beaucoup de ces maladies, sauf certaines, comme les maladies du cerveau, par exemple, parce que le cerveau, c'est très compliqué, mais on y reviendra. Eh bien, à ce moment-là, on risque de se retrouver à très long terme, c'est ce qui commence à se passer, avec des gens qui sont des personnes très âgées en bonne santé, qui ont dépassé 90 ans. Juste pour mémoire, je crois qu'on attend pratiquement 170 000 centenaires dans une vingtaine d'années en France. Par conséquent, ces gens en bonne santé, mais qui s'affaiblissent, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et ceci pose la question de la définition du vieillissement. Parce que les gens, généralement, quand on leur parle du vieillissement, ils se disent « Oh là là, moi j'ai des rides. Bon, il faut... » Alors les dames se font de la toxine botulique pour les faire disparaître. Les gens ont de l'arthrose. Alors on leur change les genoux ou les hanches, etc. Des choses qui se réparent. Mais le vrai problème du vieillissement, et c'est le fond de la question, c'est vraiment aller contre les idées reçues et les obscurantistes. Le vrai problème du vieillissement, c'est le vieillissement du cerveau. Pourquoi ? Parce que les deux grands problèmes du vieillissement, il faut distinguer les gens qui ont un peu d'âge, qui ont par exemple 60 ans, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est centenaire, bien sûr. Mais en gros, pour simplifier, les deux grands problèmes du vieillissement, c'est des personnes âgées, soit qui perdent un peu la mémoire, c'est difficile de vivre quand on perd la tête, soit qui tombent. Alors il y en a qui, malheureusement, non seulement ils perdent la mémoire, mais en plus ils tombent. Alors ça, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est le vieillissement. Qu'est-ce que le vieillissement ? C'est l'affaiblissement des fonctions vitales, mais en particulier du cerveau. Voilà, le point essentiel, le vieillissement du cerveau. C'est pour ça qu'on avait appelé « je m'amuse à vieillir », parce que le vieillissement, contrairement à ce qu'on croit, c'est quelque chose qui se prépare, et c'est le prolongement naturel de l'existence, c'est certes, mais c'est aussi une nouvelle existence, et ça, j'espère qu'on en parlera. Voilà, en un mot.
Alors, est-ce que ce vieillissement, que vous centrez sur la question évidemment cruciale du cerveau, est-ce que ce n'est pas dû au fait que les autres causes de vieillissement ont, elles, été traitées tant et si bien que c'est... C'est l'ultime limite qu'on n'arrive pas à repousser.
Vous avez raison. Pour clarifier de manière caricaturale, je pense qu'il faut séparer deux choses. Il y a le cerveau qui est dans notre crâne, là.
L'organe.
Hein, un organe, une machine qui fait un kilo, un peu moins de 3 livres, 100 milliards de neurones, 200 milliards de cellules au total, très très compliqué. D'une part, et d'autre part, le reste du corps. Le reste du corps, ce sont des exécutants. Vos membres, vos viscères sont sous les ordres du cerveau, auquel cette partie inférieure du corps apporte des informations, et qui, le cerveau traite ces informations et modifie l'environnement en retour, grâce à la motricité, si vous voulez, ou la parole, c'est ce que je fais en m'exprimant actuellement. Autrement dit, le cerveau, c'est une machine qui est en dérivation sur l'environnement, dont elle reçoit des informations et qu'elle modifie grâce à son action. Et ce cerveau, il va se développer, tout doucement, chez le bébé, chez l'adolescent, chez l'adulte, puis finalement, chez la personne très âgée, il commence à s'affaiblir. De quelle façon ? Eh bien, c'est ça le vrai vieillissement. C'est un ralentissement moteur. Les gens, il est rare de voir des centenaires courir le 110 mètres haies en 14 secondes. Bon, un, moteur. Deux, intellectuel. Ah, on est quand même plus lent pour raisonner. Hein. La stratégie du raisonnement et du jugement a tendance à s'émousser. On peut le cultiver, on y reviendra. Et puis troisièmement, sur le plan émotionnel, eh bien, il y a des gens dont, la sensibilité émotionnelle s'émousse un peu, reste un peu indifférent. Il y en a au contraire qui deviennent plus émotionnels, par exemple, qui se dépriment pour peu de choses, ou qui ont des angoisses pour peu de choses, voyez.
Sur plus émotif, en quelque sorte.
Oui, ou moins émotif, ça dépend des gens. Donc tout ça fait que, finalement, l'intégration dans la société, surtout maintenant qu'après la retraite, les gens qui ont été actifs à l'école communale, on les a forcés à apprendre des choses, au lycée, éventuellement à l'université ou en apprenant un métier manuel. Et puis avec ce travail tous les jours pendant qu'on est en activité jusqu'à 62 ans ou 4 ans, je ne sais pas, à ce moment-là, on fait des efforts. Puis tout d'un coup, on nous dit la retraite. La retraite, Hemingway disait, c'est le mot le plus laid de la langue. Les gens ont l'impression que tout d'un coup, c'est le bonheur, on va s'arrêter. Si on fait ça, c'est mon expérience quotidienne à l'hôpital, c'est que les gens, au début, sont très contents, on fait ce qu'on veut, etc. Au bout de 6 mois, on commence à s'ennuyer un peu. Au bout de quelques années, il y en a beaucoup de gens, ceux qui ne font rien, qui n'ont pas de hobby, qui ne font pas d'efforts, qui n'ont pas d'activité professionnelle, une nouvelle activité, enfin, on y reviendra si vous voulez, ceux-là s'endorment doucement et bien souvent se dépriment. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public. En tout cas, les médias n'en parlent jamais, parce que dans les médias, on vous dit soit la vieillesse est un naufrage, gna gna gna, etc. Soit on vous dit oh là là, la vieillesse c'est formidable, vous savez, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est dans les médias, dans les journaux, là, les magazines, on voit des beaux vieillards, très beaux d'ailleurs, qui se sourient béatement, etc. C'est la vision schtroumpf du vieillissement.
Sur fond de terrain de golf ou de yacht.
Oui, c'est ça. Alors que bien souvent, il faut le savoir, en dehors de quelques privilégiés, bien souvent dans la société, pour les gens qui sont démunis, la vieillesse, c'est très dur, quoi. Surtout l'extrême vieillesse. Avant, dans le temps, les gens étaient pris en charge par leur famille. Aujourd'hui, l'organisation de la société a fait que, ben, si vous voulez, dans une famille avec 2 enfants, dans un petit appartement, dans un immeuble de banlieue HLM à Sarcelles, au 9e étage sans ascenseur, vous ne pouvez pas accueillir vos parents, vos grands-parents.
Oui, il y a certainement des questions matérielles comme celle-ci, la mobilité aussi. On est contraint de déménager souvent pour suivre des emplois qui sont multiples, je ne sais plus combien tout au long de la vie. Mais il y a probablement aussi d'ailleurs le regard porté sur les personnes âgées. Il est assez patent certainement que les valeurs dominantes de notre société sont plutôt celles du mouvement tourné vers l'avenir, vers l'innovation, plus que vers la sagesse ou la transmission. Non, vous n'avez pas ce sentiment ?
Si, c'est absolument exact. D'ailleurs, les personnes âgées, quand on prend de l'âge, à partir même, disons, de la cinquantaine, les gens sont souvent en très bonne santé, enfin, ceux, heureusement, qui passent à travers les gouttes de pluie, on ne se rend pas compte qu'on vieillit. Et on se rend compte qu'on vieillit quand ? Dans le regard des autres. Tout d'un coup, les gens, vous savez, c'est ce que dit, je crois, Monseigneur Marty, Le vieillissement, c'est quand on commence à vous dire « Oh, ce que vous avez l'air jeune !» N'est-ce pas ? Et on ne le sent pas venir. Vous avez bonne mine. Mais c'est vrai que le regard des autres est difficile. Et je décris un peu le vécu dans ce livre, on va pas y revenir, bien souvent difficile. C'est Simone de Beauvoir qui a beaucoup écrit là-dessus, d'ailleurs, et très bien, dans plusieurs ouvrages. C'est parfois mal vécu. Mais parfois, au contraire, très bien. Vous avez d'abord des super normaux qui ont 90 ans et plus et qui font du jogging.
Oui, les super normaux, pour préciser, c'est un terme qui désigne donc des personnes âgées qui, justement, sont extra-normales, puisqu'elles ne sont pas dans la norme.
Oui, qui vont très très bien, ils sont en pleine santé, ils se sentent jeunes, etc. Souvent, ils exagèrent un petit peu, d'ailleurs. Et puis, il y a des gens, au contraire, c'est là que je dis que le vieillissement est différentiel, il y a des gens qui, au contraire, se laissent aller à 60 ans, estiment qu'ils ne peuvent plus, faut plus faire de sport, faut se reposer, faut plus avoir d'activité sexuelle, etc. Alors, ils ont l'air plus vieux que leur âge, au fond, ce qui est dommage. Et là, c'est un problème, d'ailleurs, psychologique intéressant, c'est que le vieillissement, pour moi, ce qui est très important, c'est l'action, c'est de faire un effort. On a fait un effort toute sa vie pour gagner sa vie et pour apprendre. Et je crois qu'il faut que cet effort se poursuive pour apprendre, mais pour exister, pour donner un sens à sa vie, pour se tourner vers la société.
Alors précisément, tout ce que vous dites appelle beaucoup de questions. Donc je commence par la première qui m'est venue à propos de votre dernier propos. Cette injonction à faire des choses, à être dans l'action qui est adressée aux personnes d'âge plus avancé, ne prend-elle pas souvent un tour malheureux, celui d'une injonction à rester jeune ? Or, si j'ai bien compris, tel n'est pas votre propos, c'est de trouver un moyen d'exister et d'être en relation avec les autres, d'avoir une utilité, une estime de soi, en prenant en compte le fait que l'on est une personne âgée.
Oui, c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire d'abord la société change. Entre le moment où moi je suis né et le moment et aujourd'hui, évidemment la société s'est transformée considérablement. Donc, on ne peut plus vivre comme en 1950. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut se connaître soi-même. C'est très important. Et les gens, souvent, oublient de se connaître. On juge les autres, mais on oublie de se juger soi-même. C'est très important de se connaître, justement, pour pouvoir s'adapter aux changements sociaux qui sont dans l'environnement très proche, qui sont dans la ville, qui sont dans le pays, qui sont dans le monde. Et, petite parenthèse, un des grands problèmes, si on veut résumer le vieillissement, moi je l'ai souvent considéré comme ça, c'est un rétrécissement du champ de conscience qui fait qu'on ne s'intéresse plus à ce qui se passe dans le monde, puis dans le pays, puis dans la ville, puis dans son immeuble, dans son quartier, et puis dans son appartement. Et puis on finit par rester assis dans son lit, regarder la télévision, jusqu'à ce qu'on s'allonge une fois pour toutes. Et alors là, c'est vraiment pas bon. Quand une personne âgée commence à s'allonger, c'est là que ça va mal. Petite parenthèse fermée. Donc c'est important de bien se connaître, justement pour pouvoir bien être en cohérence avec l'évolution de la société dans son milieu. Et Dieu sait si ce milieu change rapidement. Et ça suppose un petit effort. Parce que si on continue à vivre en se plaignant, en se disant « Mais moi, j'ai 60 ans, je vais avoir la retraite, et maintenant, je vais vivre comme quand j'avais 20 ans », ça, c'est une erreur à ne pas faire. Je pense que l'autre chose qui est très importante, c'est de se tourner vers les autres. Vous savez, quelqu'un qui est tout seul, petite parenthèse, 2 200 000 veuves en 2020, hein, parce que les femmes vivent plus âgées que les hommes. Cette solitude pose des problèmes politiques fondamentaux, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui sont isolées et démunies, bien entendu, aussi, puissent continuer à être intégrées dans la vie sociale. Ça, c'est capital. Et, on n'est pas toujours bien prêt à ça, sauf évidemment quelques privilégiés.
Dans la description de la vieillesse, on a eu toutes ces petites vicissitudes, voilà, bien connues, la perte de mémoire, les articulations qui grincent. Mais pour autant, on n'a toujours pas défini médicalement ou scientifiquement ce qu'est le vieillissement. On a l'impression que vous avez parlé des symptômes. Mais maintenant, physiologiquement, j'allais dire, qu'est-ce que le vieillissement? Est-ce que c'est quelque chose qui est programmé? Qu'est-ce que c'est? Une usure?
Alors, il y a plusieurs idées que j'ai essayé de développer qui vont à l'encontre des obscurantismes ambiants. Le premier, encore une fois, c'est de bien distinguer le vieillissement du cerveau du vieillissement du reste. Le reste du corps, d'abord, on se répare, ça se répare. Vous pouvez changer un cœur maintenant. Les médicaments sont d'une efficacité absolument formidable, etc., etc. Le cerveau, on ne peut rien faire. L'idée qu'on puisse greffer un cerveau ou qu'on puisse le réparer en mettant d'autres bouts de cerveau, de la thérapie génique cellulaire, aujourd'hui, c'est une ineptie. Hein. C'est une ineptie. De même que je pense que c'est une ineptie de vouloir prolonger la vie. Je crois que ceux qui plaident pour cette idée-là n'ont pas conscience de ce que c'est vraiment la complexité de l'univers cérébral. Le cerveau, c'est en petit ce que l'univers est en grand, comme je dis souvent. Par conséquent, il faut bien distinguer ça. Et comme je reviens sur ce point essentiel, le vrai problème du vieillissement, avec surtout les troubles de mémoire, les dépressions et les troubles de l'équilibre, c'est vraiment le vieillissement cérébral. Or, ce vieillissement cérébral se fait en pièces détachées. Ça, c'est un point très, très important. Il est différentiel en pièces détachées. Pour dire une chose, je donne cet exemple. Prenez des gens et leurs cheveux. Il y a des gens qui gardent leurs cheveux tard, des cheveux colorés. Il y a des gens qui ont les cheveux blancs à 20 ans. Il y a des gens qui perdent leurs cheveux, qui sont chauves à 30 ou 40 ans. Bon, c'est un vieillissement particulier. On ne dit pas que c'est quelque chose d'anormal. Si ça se produit dans le cerveau, bon, si vous perdez vos cheveux dans la région temporale ici, qui contrôle la mémoire... on ne perd pas les cheveux, si on perd les neurones dans cet endroit-là, eh bien, on va avoir des troubles de mémoire. Et le cerveau est si compliqué qu'il y a probablement des petits vieillissements différentiels, différents les uns des autres. Certains neurones qui restent en bon état, d'autres qui s'altèrent de manière progressive. Petite parenthèse, comme je le dis, dans le vieillissement vraiment normal, on ne perd pas de neurones. Je rappelle que dans un cerveau, les neurones sont matures, mais ils ne se divisent plus. À 18 ans, vous avez vos neurones, et quand vous avez 100 ans, si vous restez avec un cerveau strictement normal, vous aurez, à 100 ans, quand vous serez centenaire, vous aurez tous vos neurones. En revanche, ces neurones, c'est un peu comme les arbres qui perdent leurs feuilles. Les connexions nerveuses, et Dieu sait s'il y en a, un neurone a 10 000 à 50 000 connexions avec les... Vous imaginez les complexités, hein. Et il y en a 100 milliards. Et donc là, effectivement, il se déshabille progressivement. Donc ces fonctions, les fonctions intellectuelles, motrices, émotionnelles, viscérales, s'altèrent progressivement, mais de manière différentielle. Vous avez des gens qui vont avoir une mémoire parfaite, et puis qui seront toutes ridées, par exemple. Vous avez des gens qui auront une mémoire parfaite, mais qui auront des difficultés de l'équilibre, qui seront obligés de prendre un déambulateur après quelques années, et vice-versa, etc. Et il y a probablement des tas de petits vieillissements ponctuels, très limités, qu'on ne voit pas parce que leur expression est très faible. Juste pour mémoire, vous savez ce qui vieillit en premier dans l'organisme, c'est le cristallin. N'est-ce pas ? C'est le cristallin qui fait que vous commencez à porter des lunettes vous-même, pas à 45 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, et à 50 ans, en tout cas, on met des lunettes parce qu'on devient presbyte. Mais dans le cerveau, il y a des petits vieillissements différentiels, et donc il n'y a pas un vieillissement général, il y a surtout un vieillissement cérébral, et dans ce vieillissement cérébral, il y a plein de petits vieillissements différentiels qui font que il suffit d'observer les gens qui se promènent dans la rue. Ils sont un peu plus lents, souvent un peu déprimés, avec des troubles de mémoire et de l'équilibre, etc.
Alors, vous expliquez qu'il y a également des stratégies du cerveau et des neurones pour contourner les difficultés qui
oui.
sont rencontrées. C'est ce que je crois qu'on a appelé, ça a eu un grand succès il y a quelques années, la plasticité du cerveau.
Oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, heureusement, les neurones, c'est comme des grands fils électriques, mais d'une complexité extraordinaire, avec toutes leurs branches, leurs terminaisons, je le dis. Chaque cellule, et Dieu sait si on a des milliers de connexions avec les autres, mais c'est vrai que lorsqu'ils s'altèrent, les neurones eux-mêmes cherchent à se défendre eux-mêmes, par exemple en augmentant leur métabolisme, mais aussi s'il y en a un neurone, pour prendre un exemple, qui disparaît, bien les neurones d'à côté peuvent essayer de prendre leur place. C'est-à-dire que les neurones poussent des connexions nerveuses, un peu comme une plante, hein, et prennent la place de l'autre neurone. Mais avec le temps, c'est toujours le temps qui va gagner, malheureusement. C'est-à-dire que, de toute façon, par exemple, on peut penser que si on avait 150 ans, vous et moi, on aurait encore quelques neurones, mais on serait pas en bon état, parce que la plupart, probablement, auraient disparu.
Alors vous avez parlé de vieillissement différentiel dans certaines zones du cerveau, fort bien. Il y a aussi des vieillissements différentiels selon les personnes. Alors c'est vraiment un domaine totalement inégalitaire, le vieillissement.
Et oui, là, c'est ça. Alors ça pose deux questions. C'est pourquoi et comment. Pourquoi ? Ben ça, c'est très injuste. Hein. De même qu'il y a des gens très intelligents, il y a des gens qui ont fait de la recherche toute leur vie, comme moi. Et puis, il y a Einstein. Darwin, des génies. Nous sommes des nains à côté de ces gens-là, vous comprenez ? Alors, il y a des gens qui sont magnifiques. Regardez ces coureurs de marathon du Kenya là, qui font le marathon en moins de 2 heures, j'ai appris. Quand je pense que moi, quand je fais du jogging, je fais du 6 km à l'heure, si vous voulez, je devrais avoir honte. C'est injuste, c'est très injuste. Eh bien, effectivement, on est avec le cerveau qu'on a. Et ce côté inné, on ne peut rien faire. Vous naissez comme ça. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est l'acquis. On peut modifier, heureusement, dans l'éducation des enfants, en apprenant toute sa vie. Et au moment quand on a dépassé l'âge de la retraite, par exemple, on peut effectivement faire travailler son cerveau. Alors on peut le faire travailler en faisant des sudoku, en faisant des mots croisés, c'est déjà pas mal. C'est mieux que de ne rien faire. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est d'avoir des activités qui aient un sens pour soi, mais aussi pour la société. c'est de se tourner vers les autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un hobby, qui s'occupent de leur jardin pour avoir des tomates au moment où il faut. Et puis, il y en a d'autres qui vont voir des expositions, qui font des voyages, qui s'instruisent. Mais encore, vous voyez, là, c'est encore pour soi. C'est encore pour soi quand je donne cet exemple. Ce qu'il faudrait, c'est...
L'industrie du divertissement pour personnes âgées est quand même essentiellement tournée, mais comme toute l'industrie du divertissement, du reste, donc je dis n'importe quoi, vers la mise à disposition d'activités qui ne sont sociales qu'en apparence, qui sont plutôt délivrées.
Ouais. L'idéal,
il reste quelque chose à inventer. Selon...
Ouais. L'idéal, comme dit Pascal Bruckner, en tout cas, l'idée, c'est de ne pas être un bourdon improductif, comme il dit, en parlant de ces, j'adore cette expression, en parlant de ces hommes qui sont à la retraite avec une femme qui continue à travailler, qui est active, qui alimente le vrai, et puis le gars qui fait rien, là, bon, voilà, et qui se laisse aller, et qui ira mal à un moment, qui ira mal. Alors là, je pense que malheureusement, là, la nature l'emporte beaucoup. Mais parce qu'il y a des gens qui sont actifs de toute façon, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, ils seront. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et ceux-là, il faut vraiment les inciter à faire les efforts qu'ils ont faits, qu'ils font en étant âgés, les mêmes efforts qu'ils ont faits quand ils étaient à l'école communale et qu'on leur demandait d'apprendre des récitations.
Oui, à l'école communale, ils n'avaient pas le choix.
Oui, là, vous avez raison, c'est exact. Ça.
C'est l'âge où on obéit.
Oui, vous avez tout
le
à fait raison.
Le troisième âge n'est plus l'âge où on obéit.
Encore que les enfants obéissent de moins en moins, mais enfin, ça, c'est un autre sujet.
pour revenir sur cette inégalité évidemment extrêmement choquante, on a parlé de l'acquis de l'instruction. Toutefois, si j'ai bien compris, il y a une sorte de débat né de la constatation complètement incroyable que les personnes, que le niveau d'instruction est corrélé à une plus faible exposition aux maladies neurodégénératives et au vieillissement précoce. Mais là encore, où en est-on de l'inné de l'acquis dans ce constat ?
Alors, effectivement, vous lirez partout dans les médias que plus on est actif et plus on est instruit, donc actif sur le plan moteur, marcher par exemple, et plus on est instruit, c'est-à-dire qu'on active ses fonctions mentales, moins on vieillit. Moi, je suis quand même une approche scientifique. Je me dis corrélation n'est pas relation. Est-ce que c'est parce qu'on fait du sport et qu'on fait des mots croisés qu'on va vieillir moins ? Moi, j'ai des doutes. J'aurais tendance plutôt à penser que c'est parce qu'on vieillit moins qu'on continue de faire avoir des activités intellectuelles et des activités physiques. Alors c'est probablement les deux. De toute façon, contre l'inné, on ne peut rien faire. Donc la meilleure chose à faire, effectivement, c'est d'avoir une activité.
C'est de faire comme si l'inné n'était pas quelque chose de l'ordre de la fatalité, mais de l'ignorer dans sa propre vie pour donner le meilleur de soi-même. En gros, c'est ça.
Oui, mais il faut connaître aussi son inné. Je crois qu'il faut, c'est comme pour les enfants, si vous avez des enfants, c'est de leur apprendre à voir ce qu'ils seront justement quand ils auront 60 ans, qu'est-ce qu'ils feront, de façon qu'ils ne soient pas déçus parce qu'ils n'auront pas eu, par exemple, la carrière qu'ils voulaient, par exemple, ou la femme qu'ils voulaient, ou ne pas être prétentieux en étant dans des positions hiérarchiques dans la société qu'ils ne sont pas capables d'assumer, par exemple. Ça, c'est... Donc il faut toujours... C'est la recherche de ce compromis qui vous permet d'exister en étant heureux, je trouve que c'est le fondement de l'existence.
Oui, il faut cultiver ses propres talents. Vous dites à plusieurs reprises qu'il faudra aussi préparer sa vieillesse.
Oui. Ben oui,
parce que je ne parle pas de prendre une
mon expérience vie, hein. hospitalière et en visitant des EHPAD, par exemple, ou en voyant des personnes très âgées ici et là, en les regardant dans la rue, si vous voulez, je suis stupéfait de voir que ces gens-là sont complètement perdus, bien souvent. C'est comme si ça leur tombait dessus. Et je connais à l'inverse des gens qui toujours anticipent. Je parle des personnes âgées, des personnes qui disent « Mais moi, je vais faire ça parce que l'année prochaine, je vais faire ça et je vais m'organiser, je vais, etc., etc., organiser ma vie. » Le drame que je vois, j'ai vu combien de fois à l'hôpital, vous savez, c'est un couple, par exemple, de Parisiens, de la banlieue parisienne, qui vend son appartement dans, et puis qui achète une petite maison quelque part dans la Creuse, à 10 km du premier village. Bon, pendant un an, ils sont contents. Au bout d'un an, ils ne savent plus quoi faire. Ils s'ennuient à mort. Et souvent, il y en a un qui va finir par disparaître. Et que fait la personne solitaire qui reste ? C'est vraiment horrible. Et donc ça, c'est vraiment typiquement le mauvais choix. Parce qu'on fait un choix du tout ou rien, comme si on ne pense pas à ce qui peut se passer. Et pour aller plus loin, moi, j'ai la conviction que la bonne prise en charge du grand âge pour une personne, c'est de l'anticiper avant, donc de s'instruire quand on est adulte, avant la retraite, de par exemple de prévoir qu'est-ce qu'on va faire à la retraite, mais non pas seulement après la retraite, mais quand on aura, si jamais on vit jusqu'à 90 ou 100 ans. Et je vais même plus loin. Je le dis un peu en plaisantant, vu que dans ce livre, j'essaye souvent de prendre les choses quand même avec humour.
Les informations sont très sérieuses, mais le ton est souvent badin, parce que les informations sont parfois dramatiques.
Oui. Et je me demandais si on ne devait pas instruire beaucoup plus les gens sur... sur le plan sociologique, si vous voulez, sur le plan philosophique, à un âge beaucoup plus jeune. Peut-être même à l'école, de montrer quand même ce que c'est que la vieillesse. Parce que la vieillesse, on ne l'a pas dit quand même, c'est fondamental, c'est que les gens ont peur de la vieillesse. D'abord parce qu'on s'affaiblit, forcément. Ils oublient que c'est le cerveau. Hein. Je reviens là-dessus. Mais aussi parce que à la vieillesse est associée la notion de morbidité, des maladies neurodégénératives, des accidents vasculaires cérébraux, etc., et de la mort. Et c'est vrai que quand vous avez 85 ans, le temps commence à se rétrécir. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle « Je m'amuse à vieillir ». C'est une phrase de Paul Léoto qui se termine par virgule « C'est une occupation de tous les instants ». Alors, « Je m'amuse à vieillir », c'est un peu pour plaisanter. Mais en réalité, c'est aussi pour dire que la vieillesse peut être prise de manière extrêmement joyeuse. Et l'autre chose, c'est que c'est une occupation de tous les instants parce que le temps se rétrécit. Donc, il faut profiter chaque instant.
Alors vous avez parlé de la peur de la mort associée à la vieillesse. Alors moi, j'ai le sentiment que, certes, elle saisit certainement les personnes âgées qui voient le compte à rebours plus avancé, mais qu'en revanche, dans les âges plus précoces de la vie, j'ai presque le sentiment que un vieillissement en mauvaise santé fait davantage peur aujourd'hui que la mort elle-même. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans la chanson de Brel. Hein, Mourir, la belle affaire, mais vieillir, oh, vieillir.
Oui, non, vous avez raison. Les gens voient la mort comme une mort brutale. Ça ne se passe jamais comme ça. Hein. La chance d'avoir fait un infarctus du myocarde brutal en courant après l'autobus, c'est rare, ça existe, mais c'est rare. La plupart du temps, les gens meurent avec des agonies prolongées. Ce qui pose un problème, le problème immense de la fin de vie et de ce qu'on doit faire, à mon avis, notre société est très en retard sur ce point de vue, mais c'est un point de vue personnel. Donc, oui, préfère la mort, mais souvent les gens n'ont pas conscience de ce que c'est que la mort. Et de la difficulté vraiment terrible dans les dernières années d'une vie où on ne sert plus à rien, où on souffre, où on ne peut plus se déplacer, où on perd un peu la tête, évidemment, on ne se rappelle plus les choses, et où plus personne s'occupe de vous. Il y a des gens qui le font avec beaucoup de compassion, mais enfin bon, on n'est plus intégré dans la société. Et finalement, la mort est précédée d'une agonie qui peut durer très longtemps, c'est embêtant. Mais effectivement, les gens ont peur surtout d'avoir la séquelle d'un accident vasculaire cérébral avec une aphasie, par exemple, une hémiplégie, et plus encore de ces maladies neurodégénératives. La maladie de Parkinson, je rappelle, 150 000 personnes avec un déficit moteur. Heureusement, on traite les symptômes quand même dans beaucoup de ces maladies, parce qu'il n'y a pas une maladie de Parkinson, il y a des maladies de Parkinson. Et plus encore, la maladie d'Alzheimer, 800 000 personnes en France, bon, où les gens perdent la tête, alors que les comportements... comme la marche, la déambulation, tout ça se fait normalement, avec non seulement des troubles de mémoire, mais souvent, les familles le rapportent bien souvent, parfois, des troubles psychologiques très importants qui font que c'est très difficile à vivre pour le malade et à vivre pour l'entourage.
C'est l'une des principales craintes, je pense, sociales aujourd'hui. Je ne vois guère de personnes ou de familles qui n'envisagent pas cette sombre perspective.
C'est le problème
du reste, vous dites, il y a 8 millions de personnes qui sont proches, alors c'est pas forcément pour des malades d'Alzheimer, mais 8 millions de Français qui sont aidants ou proches d'aidants de personnes âgées devenues séniles ou impotentes.
C'est énorme. Ce qui pose un problème d'ailleurs pour l'aide qu'on doit donner à ces aidants qui sont bénévoles la plupart du temps. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que les maladies dégénératives du cerveau, quand c'est le cortex cérébral, c'est l'Alzheimer, Parkinson, quand c'est les petites structures au centre du cerveau, mais aussi le cervelet, la moelle épinière, la sclérose latérale amyotrophique, des neuropathies. C'est des vieillissements. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie neurodégénérative ? C'est par rapport au vieillissement normal de certaines populations pour le cerveau de neurones, un vieillissement prématuré. Mais un vieillissement prématuré qui n'est pas tout le cerveau. Ce n'est pas un dysfonctionnement global du cerveau. C'est le dysfonctionnement d'un certain nombre de circuits très particuliers dans le cerveau. Je prends l'exemple de la maladie de Parkinson, que mon groupe a beaucoup étudié. Si on dit qu'on a 100 milliards de neurones, pour dire les choses de manière très grossière, dans la maladie de Parkinson la plus classique, on perd 1 million de neurones. Pourtant, vous avez vu les résultats. Si les gens n'étaient pas traités, ils pourraient se statufier très rapidement. Et entre guillemets, statufier, parce que il y a plus de comportement. Et 1 million sur 100 milliards, ça fait 1 sur 100 000. Donc vous avez 1 neurone sur 100 000 qui va déterminer cette épouvantable maladie. Heureusement qu'on arrive à compenser, comme vous savez, avec des traitements de substitution, mais dans les meilleurs cas, pas dans tous les cas. Et donc, c'est encore exprimé que le vieillissement est différentiel et que si certaines populations de neurones, ça va parler, ça va vous donner des déficits intellectuels, déficits de raisonnement, déficits de perception. On n'a pas parlé des organes d'essence, la surdité, les anomalies de la rétine, la DMLA, etc., qui entraient, les gens deviennent sourds ou deviennent aveugles, les difficultés du langage, les gens qui oublient, commencent à oublier les mots, et les troubles de mémoire générale, etc., etc. Et surtout, je vous le dis, les deux grands problèmes, c'est les troubles de mémoire et les personnes âgées qui perdent la mémoire, les personnes âgées qui tombent. Donc tout ça, encore une fois, le vieillissement différentiel avec des populations de neurones qui vont vieillir de manière prématurée, mais de manière sélective dans quelques parties du cerveau.
Puisqu'on est sur ces maladies, est-ce qu'il y a des espoirs de traitement qui se profilent à l'horizon ?
Alors, oui et non. Oui, parce que quand même, on prend très bien en charge le vieillissement. D'abord, en dehors du cerveau, le miracle de la chirurgie, le traitement des maladies qui sont favorisantes comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, etc., qui donne à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux, etc. On peut même faire des transplantations, mais pour le cerveau, on ne sait pas. Et la question que vous me posez, c'est comme si on disait, est-ce qu'on peut ralentir le vieillissement du cerveau ? Ou le vieillissement en général ? Non. La seule chose qu'on peut faire, c'est compenser. Par exemple, si les gens ont les cheveux blancs, c'est très joli à voir. On peut les dames se teignent les cheveux pour ne pas avoir les cheveux gris. Bon, mais en dehors ou les rides, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Franchement, il y a des femmes ridées qui sont tout à fait charmantes et désirables et tout ce qu'on veut, ça n'a rien à voir. Le vrai, c'est le problème du vieillissement du cerveau. Or, le vieillissement, on ne sait pas guérir le vieillissement et encore moins le vieillissement pathologique, c'est-à-dire les maladies neurodégénératives. On ne peut pas stopper l'évolution de ces maladies. Mais ce qui est quand même fondamental, c'est qu'on commence à comprendre comment ça marche. On commence à voir du point de vue biochimique, chimique, ce qui se passe, l'apparition des radicaux libres, le rétrécissement de certains chromosomes, etc. etc. Je ne peux pas décrire ça ici, mais on connaît bien, on a un bon état des lieux. La question, c'est qu'on ne sait pas si... On ne sait pas le système original. Et il faut comprendre qu'on revient à l'idée de l'inéluctable. Il y a des gens qui ont une longévité programmée, de chaque organe de manière différente, de chaque organe de manière différente, et dans le cerveau, des sous-parties du cerveau de manière différente. Ça, c'est l'inné. Et puis, il y a l'acquis. À ce moment-là, on peut, par tous les moyens, essayer de réduire ce vieillissement, de le compenser. Et c'est, encore une fois, trois activités. Motrice, il faut marcher, il faut faire du sport. Intellectuelle, il faut avoir une activité intellectuelle. Émotionnelle, il faut par exemple avoir une vie sociale. Il faut rencontrer ses petits-enfants, s'en occuper, aller au spectacle, rencontrer des amis dans des clubs, des associations, etc. Et si tel est le cas, on arrive quand même à avoir, pour moi, je connais des gens qui s'astreignent à cette espèce d'éducation personnelle, qui sont quand même des contraintes aussi, il faut s'obliger à le faire, et qui ont des existences, même à des périodes très âgées, qui sont vraiment extrêmement satisfaisantes. La raison pour laquelle moi j'ai écrit ce bouquin, c'est parce que je trouve que, à travers les médias, bien souvent, il y a beaucoup d'obscurantisme, de fake news, de recettes, de voir des gourous qui s'expriment de manière stupide. Alors que les deux mots clés pour le vieillissement, c'est un, l'effort, et deux, le bon sens. Effort et bon sens.
Ça, c'est très bien. Ce sont pour des démarches personnelles. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que notre pays serait, sur certains plans, en tout cas, en retard dans les politiques de prise en charge des personnes âgées. À quoi pensiez-vous ? Et que fait-on de mieux ailleurs, dont on pourrait s'inspirer ?
C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Il est certain que dans les pays du Nord, dans les pays nordiques en particulier, la prise en charge des personnes âgées est meilleure. Parce qu'il y a une politique sociale qui existe depuis la guerre, avec, par exemple... des organisations associatives qui font que les vieux sont intégrés dans la société, et des maisons de retraite qui sont extrêmement confortables. En France, vous avez des maisons de retraite qui sont très luxueuses,
aussi,
très luxueuses, comme... bon, vous savez, ça coûte 5000 euros par mois, pour, si vous voulez, dans un endroit... Alors, c'est rare.
Alors 5000, c'est à la charge de la personne ou de la famille, ou ça comprend la part prise ?
La part, c'est 5000 euros à payer, et on rembourse généralement entre 1500 et 2300 euros.
Donc il reste à charge de 3000, disons.
Oh oui, mais attendez, personne ne vous rendez compte, vous mettez 5000 euros, ce n'est pas possible. Donc, il y a très très peu de gens qui peuvent faire... Donc la plupart des EHPAD sont souvent des maisons... Enfin, c'est très variable, j'ai rien contre les EHPAD, Dieu merci, mais bien souvent, ce sont des mouroirs, hein, et où des personnes très très âgées sont laissées à l'abandon. Enfin, moi, ça me gêne de dire ça, parce qu'il y a tellement de gens qui s'occupent de ces problèmes sociaux et qui le font très bien. Mais là, il y a des progrès absolument considérables.
Donc, oui, l'idée. Oui, pour être précis, les gens qui travaillent dans les EHPAD ne sont pas mis en cause, mais le dénuement dans lequel ils accomplissent leur tâche est mis en cause.
Oui. Oui, c'est ça. Et il y a des pistes considérables. Ça veut dire une restructuration complète de la société, des villes, des campagnes, pour que les personnes âgées soient mieux intégrées auprès des gens qui travaillent, auprès de la jeunesse, d'une part, et d'autre part, d'améliorer les EHPAD, leur fonctionnement. Et une chose qui est possible, pour donner juste un exemple, c'est de faire en sorte que les gens aient une activité, qu'on propose aux gens des activités sportives, des activités physiques et des activités intellectuelles et des relations sociales de manière beaucoup plus accentuée que ce qu'il fait actuellement. C'est un énorme travail à faire.
Est-ce que finalement le vieillissement... Et pourtant inscrit dans les données démographiques, et s'il y a une science qui permet la prédiction, c'est la démographie, ne mériterait pas un vrai débat et un nouveau pacte social ? Est-ce qu'il ne faut pas un nouveau pacte autour de ces questions-là ? Se réunir en tant que nation autour de cette question pour savoir comment adresser ce problème, comme on dit aujourd'hui ? Mais c'est, ou cette question plus que ce problème, justement.
Ça s'est fait, vous savez. Ça se fait. D'abord, les pouvoirs publics ont des comités qui ont bien réfléchi à ça. Moi-même, dans le comité national d'éthique, j'avais participé à une saisine sur le vieillissement, justement, ou sur la fin de vie. Il y a beaucoup de réflexions, mais il faut aussi que cette réflexion... Il faut d'abord comprendre bien ce que c'est que le vieillissement, notamment le vieillissement cérébral, ce que les gens encore n'ont pas toujours bien compris. Et deuxièmement, il faut que toutes ces réflexions, qui sont des réflexions philosophiques, sociologiques, soient mises en œuvre. La mise en œuvre de ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est une philosophie à mettre, philosophie politique à développer. Et ça, si vous voulez, dans un pays comme le nôtre, qui a des difficultés, comme vous le savez, des difficultés économiques notamment, l'argent ne va pas en priorité sur ces questions-là. Voilà. Donc il faut s'occuper de l'école. Je crois que, par exemple, le gouvernement actuel s'occupe beaucoup de l'école. Je pense que ça, vraiment, c'est très, très important, notamment à un âge très... au petit âge, dans la toute petite enfance. Je pense que, dans un second temps, il faudra vraiment prendre en charge ce problème du vieillissement de manière plus efficace.
Ça devrait se faire, pour que, par ailleurs, les personnes âgées représentent déjà une force politique
majeure. Oui. J'ai cité le chiffre, je ne sais plus combien, de millions de personnes âgées. C'est celles qui votent. On a besoin de leur vote. Mais vous avez déjà vu des articles, et plein d'articles sur le vieillissement de l'état des lieux. Hein, y a des chiffres partout, etc. C'est très bien fait. Mais les solutions ne sont pas évidentes. C'est pas, il faut, là, dans ces cas-là, comme toujours, un grand plan stratégique pour l'avenir, avec des étapes telles que la première étape annoncera forcément la deuxième, premièrement, et deuxièmement, des activités, des mises en place de politiques ponctuelles dans les divers endroits, en fonction de la géographie, du niveau social et de la psychologie des gens.
Et puis après tout... Même les plus grands problèmes sociaux ne trouvent pas leur solution dans la seule intervention publique. Il y a aussi la capacité à s'y préparer soi-même, et c'est l'un des objets de votre
oui,
ouvrage.
Oui.
En tout cas, moi, je ressors avec de nouvelles idées sur, j'allais dire, ma fin de vie. Ça, on verra plus tard, mais sur ce troisième âge de la vie.
Ben, il y aura au moins une personne, c'est pas mal.
J'espère que parmi nos auditeurs, certainement aussi, et je les invite à s'y préparer, car... Ce fait social total, comme on en parlait, exige des réponses économiques, de politiques, mais aussi de préparation psychologique, de réflexion philosophique et d'attitude devant la vie, comme envisagé, ouais, comme toujours, comme un projet. Votre ouvrage y aide beaucoup.
Ben, je le redis, les deux mots à l'échelle individuelle, c'est effort, action et bon sens.
Écoutez, pour creuser et donner du corps à ces mots, j'incite nos auditeurs à se reporter à votre ouvrage « Je m'amuse à vieillir, le cerveau maître du temps » par le professeur Yves Agide aux éditions Odile Jacob. Merci, monsieur.
Merci beaucoup.